Bon week-end à vous tous. Au revoir.
VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous. Clairement, Gibourg avec vous. Bienvenue dans le monde aujourd'hui. Au sommaire ce soir. Tournée africaine du secrétaire d'État américain Anthony Blinken assure qu'entre la Chine et les États-Unis, les Africains n'ont pas à choisir. Réunis à Abidjan, les chefs d'état-major de la CDAO assurent qu'ils sont tous unis contre le terrorisme. Arrestation en Centrafrique d'Hassan Bouba, ministre de l'élevage et un des chefs de la rébellion de l'UPC. Ici aux États-Unis, le gigantesque plan de réforme sociale du président Joe Biden a été adopté par la Chambre des représentants. Également dans un peu plus de 10 minutes, l'économie et les sports, mais d'abord le journal. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken quitte Abuja pour le Sénégal dans le cadre de sa tournée africaine. Il a prononcé ce matin un discours à la CDAO sur la politique africaine des États-Unis. Plus de détails avec Gilbert Tamba à Abuja.
La visite du secrétaire d'État américain s'est achevée par un discours au siège de la CDAO à Abuja. Anthony Blinken a annoncé la tenue prochaine d'un sommet entre le président américain et les dirigeants africains pour montrer l'engagement de Washington envers le continent, mais il n'a pas donné la date pour la tenue de ce sommet. M. Blinken a aussi évoqué les 4 coups d'État dans la sous-région cette année, la corruption, ajoutant que beaucoup d'Africains vivent partiellement sous le régime militaire. Hier, Anthony Blinken a rencontré le président nigérian Muhammadu Buhari et le ministre des Affaires étrangères Godfrey Onyema. Ce dernier s'est félicité du soutien que les États-Unis apportent à l'engagement au leadership du Nigeria. Le secrétaire d'État américain se rend au Sénégal, la 3e et dernière étape de son périple africain. Gilbert Tamba Abuja pour VOA Afrique.
Lors de son discours au siège de la CDAO, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a affirmé que les Africains n'ont pas à choisir entre la Chine et les États-Unis, assurant que son pays pouvait leur offrir davantage en matière de droits démocratiques. M. Blinken n'a fait aucune mention explicite de la Chine, mais a affirmé savoir que les Africains se méfient des ficelles qui accompagnent souvent les engagements étrangers. Nous reviendrons sur ce dossier en seconde partie de cette édition. Fin de conclave des chefs d'état-major des armées de la CDAO à Abidjan. Ils sont réunis depuis quelques jours dans la capitale économique ivoirienne autour de la question de la lutte contre le terrorisme et la piraterie maritime dans l'espace CDAO. Plus de détails avec Delphine Boise, notre correspondante à Abidjan.
Avec la réorganisation en cours de la force française Barkhane dans le Sahel, les chefs des armées de la région se sont réunis à Abidjan pour voir comment les États peuvent combler le vide que va laisser la réduction des forces françaises. Sur la table, la question de la mobilisation prochaine de 3000 hommes de la CDAO pour lutter contre l'insécurité dans la région. Les chefs d'état-major ont aussi évoqué l'organisation commune de manœuvres militaires visant à combattre les groupes armés terroristes et autres groupes criminels qui opèrent dans les zones frontalières communes de ces pays. Et selon les intervenants, il faut mutualiser les efforts, la solution individuelle ayant montré ses limites. Pour eux, il s'agit de proposer des mécanismes pertinents et immédiatement applicables. La rencontre qui a vu la participation des 13 chefs d'état-major de la CDAO prend fin ce soir à Abidjan. Delphine Boise, Abidjan, VOA Afrique.
Toujours en Côte d'Ivoire, une enquête a été ouverte concernant des faits de viol commis en début de semaine par des membres des forces de sécurité lors d'une opération de lutte contre des sites d'orpaillage illégal dans le nord-est du pays. Selon le député de la circonscription, 5 femmes ont été violées, 3 ont accepté de porter plainte et 2 ont fui le village de honte. Au Burkina Faso, des milliers de personnes ont manifesté à Kaya, chef-lieu de la région du centre-nord, pour s'opposer au passage d'un important convoi logistique de l'armée française en transit vers le Niger voisin. En provenance de Côte d'Ivoire et à destination du Niger, l'avancée du convoi a été bloquée mercredi et jeudi par des manifestants à Bobo-Dioulasso, puis à Ouagadougou, où les forces burkinabées ont dû faire usage de gaz lacrymogène pour disperser les manifestants. L'ancien leader gambien en exil, Yahya Jammeh, est à nouveau intervenu dans la campagne pour la présidentielle lors d'une réunion publique du leader du Congrès démocratique gambien, Mama Kandé, candidat avec lequel il a noué une alliance pour la présidentielle du 4 décembre. Monsieur Jammeh conserve de nombreux supporters en Gambie. En République centrafricaine, arrestation ce matin à Bangui du ministre de l'Élevage, Hassan Bouba, un des chefs de la rébellion de l'Unité pour la paix en Centrafrique, recherché par la Cour pénale spéciale pour des crimes qu'il aurait commis sur le territoire centrafricain. Même si officiellement, ni le gouvernement, ni la CPS n'a encore réagi, son arrestation a plutôt suscité des réactions. Au micro de notre correspondant Freeman Sipila à Bangui, le journaliste Christian Aimé Ndota a beaucoup milité sur les réseaux sociaux pour l'arrestation de ce chef rebelle nommé ministre.
C'est depuis bientôt 3-4 mois que je mène une campagne sur ma page Facebook pour qu'il soit arrêté. J'ai interpellé le gouvernement, j'ai interpellé le président de la République, j'ai interpellé même la CPS parce qu'il a du sang sur la main. Il a fait beaucoup de dégâts. Il a commis des atrocités, notamment à Lindao. Récemment, je rappelais, puisque à Lindao, c'était il y a pratiquement 4 ans de cela, je rappelais que c'était l'anniversaire de ce triste massacre qui avait été imputé à l'UPC et particulièrement à Hassan Bouba qui dirigeait les opérations. Il est entré au gouvernement, je l'ai dénoncé à maintes reprises. Lorsque le gouvernement a été remanié, il a été maintenu et donc c'est une très bonne nouvelle. Je pense que c'est même la meilleure nouvelle de l'année si on arrête. Mais il ne faudrait pas qu'on arrête que Hassan Bouba. Il y a encore d'autres criminels, notamment son chef, Ali Daras, qui doit également être interpellé.
Une enquête de médias internationaux et d'ONG affirme que l'ancien président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila, et sa famille ont siphonné en 5 ans au moins 138 millions de dollars des caisses de l'État avec la complicité d'une banque. Cette enquête, intitulée Congo Hold-up, s'appuie sur 3,5 millions de documents bancaires confidentiels. En Guinée équatoriale, le président Teodoro Obiang Nguema Mbasogo sera très probablement désigné mardi au congrès de son parti candidat à un sixième mandat à l'élection de 2023. Le président Obiang détient avec 42 ans le record mondial de longévité d'un chef d'État encore vivant à la tête d'un pays hors des monarchies.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ici aux États-Unis, les démocrates célèbrent une victoire. Les élus de la Chambre des représentants ont voté ce vendredi matin le gigantesque plan de réforme sociale du président Joe Biden. Mais son adoption s'annonce difficile au Sénat. Le point avec Abdourahmane Dia.
C'est un grand jour pour notre pays, a lancé la présidente de la Chambre, la démocrate Nancy Pelosi. Le texte « Build Back Better » ou « Reconstruire en mieux », vaste plan social et environnemental de presque 1 800 milliards de dollars, a été adopté par la Chambre à majorité démocrate. Ce texte prévoit notamment l'école maternelle pour tous, des crédits d'impôt pour les foyers américains et des investissements conséquents pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Le vote intervient 3 jours après la signature par le président Joe Biden du premier volet de sa loi sur les infrastructures de plus de 1 200 milliards de dollars. Prochaine étape pour le plan d'investissement social, le Sénat, où on s'attend à une rude bataille avant de revenir à la Chambre basse, probablement en décembre ou janvier. Certains sénateurs démocrates modérés ne sont pas encore totalement convaincus par certains aspects du programme qu'ils jugent trop cher pour le contribuable américain.
Le président américain Joe Biden a repris ses fonctions présidentielles qu'il avait transférées pendant 1h25 à la vice-présidente Kamala Harris, le temps d'une anesthésie, a annoncé la Maison-Blanche. Le président des États-Unis a subi une coloscopie de routine lors de son bilan de santé annuel. D'autre part, les États-Unis ont opposé aujourd'hui une fin de non-recevoir aux talibans qui avaient appelé, dans une lettre ouverte au Congrès, à libérer les avoirs afghans gelés depuis leur prise du pouvoir mi-août, en réaffirmant qu'ils devaient d'abord mériter le soutien de Washington. Des centaines de migrants ont de nouveau tenté de traverser la frontière depuis le Bélarus, ont annoncé les autorités polonaises, en dépit des signes d'apaisement de la crise et l'évacuation d'un grand campement de fortune. Enfin, l'Autriche confine à nouveau l'ensemble de sa population pour 20 jours face à l'épidémie du coronavirus. La vaccination sera obligatoire pour tous à partir du 1er février. C'est le premier pays en Europe à prendre de telles mesures face à la résurgence des cas de Covid. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. L'essentiel de l'actualité économique en Afrique, c'est la Minute Éco avec John Lindon.
Les envois de fonds à destination de l'Afrique subsaharienne devraient connaître une hausse de 6,2% en 2021 et atteindre un montant total de 45 milliards de dollars. C'est ce qu'indique la Banque mondiale dans ses nouvelles perspectives. Ces perspectives s'inscrivent en net rebond par rapport aux performances de l'année 2020. La Banque africaine d'import-export a signé plusieurs conventions d'une valeur de 5 milliards de dollars à la deuxième journée de la foire commerciale intra-africaine qui s'est ouverte le 15 novembre à Durban en Afrique du Sud. Selon Financial Afrique, ces accords portent sur les secteurs du transport, de la logistique, des énergies renouvelables et les transactions financières. Ces accords visent à soutenir les initiatives commerciales afin de relancer les économies éprouvées par le COVID-19. Le gouvernement américain a commandé au laboratoire Pfizer 10 millions de traitements de sa pilule anti-COVID pour 5,29 milliards de dollars sous réserve du feu vert des autorités sanitaires, le président Joe Biden assurant que ces pilules seront distribuées gratuitement. Ce traitement est très attendu car selon Pfizer, il peut facilement être pris chez soi dans les premiers jours après l'apparition des symptômes en cas d'infection.
Et maintenant, la page sport présentée ce soir par Eric Manirakiza. Bonsoir Eric.
Bonsoir Claire, bonsoir à tous. Football d'abord, quelques jours après la trêve internationale, les championnats locaux reprennent en Europe ce week-end, sans oublier la Champions League dès mardi prochain. En France, le Paris Saint-Germain va tenter de préparer au mieux son choc de Ligue des Champions à Manchester City dans 3 jours, avec la réception de Nantes demain samedi à 17h lors de la 14e journée du championnat de France. En Angleterre, le milieu de terrain belge de Manchester City, Kevin De Bruyne, est positif au Covid et manquera les matchs contre Everton en championnat dimanche et le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions mercredi, décisif pour la qualification en 8e de finale. Kevin est positif au Covid, il sera à l'isolement 10 jours, a annoncé l'entraîneur Pep Guardiola vendredi. Le manager de Tottenham, Antonio Conte, a mis au défi vendredi Tanguy Ndombele de prouver qu'il pouvait mettre ses propres intérêts de côté afin de jouer plus collectif alors que le milieu de terrain français pourrait être rappelé contre Leeds dimanche. L'entraîneur d'Arsenal, Mikel Arteta, a prévenu Pierre-Emerick Aubameyang qui ne pouvait pas se reposer sur ses lauriers vendredi, demandant que l'attaquant gabonais marque davantage. Il a déjà marqué pas mal de buts, mais nous en voulons toujours plus et nous en demandons plus, a affirmé le technicien espagnol. Les Gunners, 5e, est resté sur une série de 8 matchs sans défaite en Première Ligue, alors qu'ils s'en rendront à Liverpool, 4e, demain samedi. NBA, les Warriors ont enregistré hier jeudi leur 13e victoire de la saison NBA à Cleveland grâce à un coup d'accélérateur décisif en fin de rencontre. Stephen Curry, déterminant, a inscrit 20 de ses 40 points dans le dernier quart-temps, devancé par les Cavaliers dont 4 titulaires étaient pourtant absents durant quasiment toute la rencontre. Les Californiens leur ont infligé un 38-6 dans le dernier quart pour remonter en déficit de 13 points et finalement s'imposer 104-89. Dans le duel au sommet de la conférence Est à Miami, le Heat l'a emporté 112-97 face aux Wizards de Washington, leur piquant du même coup la place de leader à l'Est avec désormais 11 victoires et 5 défaites comme les Brooklyn Nets contre 10 victoires et 5 défaites pour Washington et les Chicago Bulls. À Denver, les Sixers de Philadelphie, toujours privés de leur pivot camerounais Joel Embiid à cause du Covid-19, mais aussi de Matisse Thybulle, Danny Green et Ben Simmons, ont réussi à mettre fin à une série de 5 défaites d'affilée en s'imposant 103 à 89. Et c'est la fin des sports. Bon week-end.
Merci Eric.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Claire Morin-Gibourg, toujours avec vous. Place au dossier du jour. L'Afrique doit être traitée comme un acteur de géopolitique et non comme un sujet de géologie. Anthony Blinken l'a déclaré lors d'un discours au siège de la CEDEAO à Abuja, deuxième étape de sa tournée africaine. Dans un contexte de rivalité avec la Chine, le chef de la diplomatie américaine a indiqué que les États-Unis ne veulent pas limiter les partenariats de l'Afrique avec d'autres pays, tout en mettant en exergue une approche américaine basée sur la durabilité, la transparence et les valeurs. Pour une analyse, Abdourahmane Dia a joint à Paris l'économiste Younes Belfella.
Tout d'abord, il faut rappeler quand même qu'il y a un changement très important au niveau de l'approche américaine par rapport au continent africain, parce que là, on voit qu'il y a d'abord une conscience par rapport à tout ce qui se passe en Afrique et une volonté politique de marquer des relations de partenariat, quel que soit le type de ce partenariat. C'est-à-dire il y a des différentes relations, certainement des relations stratégiques, des relations sécuritaires, d'autres de type économique ou même commercial. Maintenant, la concurrence et la rivalité, elle est très intense par rapport au continent africain. On note la présence de plusieurs puissances, la Chine, la Russie, la France, l'Union européenne, la Turquie. Et donc, les États-Unis, bien évidemment, ont aussi intérêt à marquer une présence au niveau du continent, surtout que la rivalité sino-américaine, elle est à l'État-Unis, et bien évidemment, le continent africain est aussi intéressant là-dessus, surtout qu'il s'agit quand même d'un continent qui détient énormément de ressources naturelles, de puissances également énergétiques, et bien évidemment d'opportunités d'investissement.
Les défis de Washington face à une Chine qui pose moins de conditionnalités liées aux droits de l'homme et à la démocratie dans son partenariat avec l'Afrique, est-ce que cela ne pose pas problème pour l'approche américaine ?
Oui, tout à fait. En plus, il faut rappeler quand même, la Chine, c'est le premier investisseur en Afrique, 175 milliards de dollars d'investissement. C'est ce qui dépasse en quelque sorte les investissements de la France, du Royaume-Uni et de la Russie ensemble. Et de plus, il s'agit également, c'est le premier fournisseur d'endettement. Et moi, je trouve que c'est un facteur qui est très, très dangereux pour le continent africain. On le constate d'ailleurs qu'il y a des pays dont l'endettement chinois dépasse 50% du PIB. Je pense à certains pays du continent comme le Congo, comme Kenya, comme Niger, comme plein de pays. Et en plus, il y a l'absence totale de cette dimension de valeur, on va dire, quel que soit au niveau des droits de l'homme ou bien au niveau même de la démocratie.
Alors, en dehors de la coopération bilatérale, Washington veut encourager les investisseurs américains à s'intéresser davantage à l'Afrique. Comment est-ce qu'il faut s'y prendre ?
Il faut travailler la politique des aides qui fait gagner énormément en Afrique, mais pas des aides seulement, je dirais, financières, mais c'est des aides en matière d'investissement, c'est-à-dire des aides qui peuvent créer de la croissance et également de l'emploi. Et aussi, c'est le rôle, on va dire, des États-Unis là-dessus. Ça peut être aussi l'utilisation du soft power, c'est-à-dire toutes les organisations, les ONG, la société civile, et qui peuvent en quelque sorte mettre en place un système de veille très intéressant par rapport à tout ce qui se passe en Afrique en matière d'opportunités d'investissement et de travailler à des alliances entreprises, entre sociétés civiles et par la suite entre gouvernements.
C'était l'économiste Younes Belfella. Anthony Blinken, secrétaire d'État américain, termine son périple africain par l'étape Sénégal. Au pays de la Teranga, les attentes sont nombreuses après le mandat de Trump qui n'a pas vraiment rehaussé les relations USA-Afrique. De notre correspondant à Dakar, Sedina Bagay.
Les États-Unis ne se déplacent jamais pour des détails. Si une personnalité aussi importante vient au Sénégal, c'est parce qu'il y a des intérêts importants en jeu. C'est du moins l'avis du jeune mécanicien Mohamed Mbaye.
Soit pour promouvoir, voilà.
À chaque fois qu'un secrétaire d'État américain vient au Sénégal, il y a un issue roche. Soit ils veulent promouvoir l'homosexualité ou faire quelque chose de bien pour l'avancement de la démocratie. Comme on le voit, il y a beaucoup de perturbations sur la stabilité politique du pays entre le gouvernement et les opposants. Les images sont partout et cela n'honore pas la démocratie sénégalaise avec des injustices notoires.
Injustice. Trouvée devant son magasin, la commerçante Fatou Sarr pense que la visite du secrétaire d'État américain peut être une solution au problème actuel du Sénégal.
Une collaboration démocrate concernant ce qui se passe déjà pour un troisième mandat du président de la République, vu que ça n'existe pas aux États-Unis. Il peut renforcer ça en parlant aux jeunes ou bien même le convaincre à ne pas se présenter.
De son côté, Sao Tunkara se veut très prudente.
Régler toutes les questions, je ne saurais le dire. Mais par contre, ce qui est sûr et certain, c'est qu'il en parlera sûrement au président de la République et que peut-être lui va lui signaler carrément notre recul démocratique, comme on pourrait le dire, et peut-être que ça pourrait régler en tout cas certaines questions.
Le secrétaire d'État américain sera au Sénégal ce vendredi et ce samedi pour une visite officielle durant laquelle il va rencontrer le président Macky Sall et la ministre des Affaires étrangères, Aissata Tall Sall. Il va également rencontrer le secteur privé et participer à une table ronde économique et numérique des femmes. Seydina Bagay à Dakar pour VOA Afrique.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24h sur 24. Au Gabon, sauver la société de transport public Sogatra ou la laisser mourir? La question est sur la table du gouvernement. La principale société de transport public du pays est en sérieuse crise. Entre vétusté de son parc automobile et les dettes cumulées liées aux charges sociales et celles des fournisseurs, c'est la série noire pour le personnel. Une situation qui impacte la mobilité des usagers à Libreville. Le reportage de notre correspondant Ismaël Obiangze à Libreville.
Les usagers qui se frottent et se bousculent pour prendre un transport en commun, c'est la galère quotidienne dans les grands carrefours de Libreville, dans le Lot, les travailleurs et les étudiants.
Je suis parmi la frange de la population qui est touchée par le déficit des transports en ce moment à Libreville.
Les Gabonais n'ont pas l'argent, les Gabonais n'ont pas de travail et on nous rajoute encore la hausse des prix.
La crise du transport public a provoqué une inflation sur toutes les destinations de la ville. Les courses en taxi ont grimpé, passant du simple au double. Difficile d'imaginer un retour à la normale avec la Sogatra qui pratique des coûts à bas prix. Mais faute de salaire depuis 11 mois, le personnel de la société observe un sitting devant les services du trésor public. Noël Obadja, chef du pôle technique de Sogatra.
Alors ce qui nous amène ici à la direction générale de la comptabilité publique et du trésor, c'est le fait que le gouvernement a diligenté un OP, donc l'ordre de paiement, depuis plusieurs semaines. L'ordre de paiement traîne ici. On ne sait pas pour quelle raison.
Dans le parking de la société, des centaines de véhicules sous canne prennent la rouille en attendant les pièces de rechange. Pour le syndicat des agents administratifs, techniciens et conducteurs réunis à l'Assemblée générale, le temps des arbitrages a sonné. Cyril Gaston Doundi Lemboumou, président du Sinatec.
Nous avons fait comprendre aux agents qu'entre préserver son emploi et perdre son emploi, il y a un choix à faire. C'est de préserver son emploi. Mais préserver son emploi, il y a des sacrifices à faire. C'est ce que les agents ont adhéré et nous allons voir maintenant techniquement.
Dans le plan de sauvetage de l'entreprise, il y a l'hypothèse de sa liquidation qui fait donc mal aux employés de Sogatra. Brice Constant Faya, ministre gabonais des Transports.
Il faut revoir les modalités de la gouvernance. Il faut revoir l'organigramme qui est pléthorique. Que derrière ça, monsieur, il y a une dette fournisseur estimée à 1,5 milliard aujourd'hui, sous réserve de circularisation de cette dette-là. Il y a une dette sociale importante, CNSS, NAMGES. Aujourd'hui, les dettes cumulées de Sogatra se chiffrent à 22 milliards. Où nous sommes dans une réflexion très profonde avec la participation des partenaires sociaux. Malheureusement, nous orientons vers une liquidation de la Sogatra.
Sur le piquet de grève, les employés chauffés à blanc continuent d'espérer le paiement de leurs droits. Un des préalables à la levée du mouvement qui dure depuis plusieurs semaines. Libreville, Ismaël Obiangze pour VOA Afrique.
Dans l'est de la République démocratique du Congo, les naufrages font de plus en plus de morts. Plusieurs pirogues motorisées transportant des commerçants et leurs marchandises chavirent régulièrement dans le lac Kivu. Parmi les raisons de ces accidents, il y a la surcharge des embarcations et le manque de ports dans les villages pour accueillir de grands bateaux. Notre correspondant, Zanem Neti Zaidi, s'est rendu dans le territoire de Kalehe, au sud Kivu. Suivez son reportage.
Pina Mirimba, la quarantaine, habitante du village de Kanyamugogo dans les territoires de Kalehe, est restée impuissante, traumatisée et triste depuis que le lac Kivu a avalé ses quatre enfants. Ils sont morts dans des naufrages successifs alors qu'ils se rendaient dans un autre village pour affaires.
Sans compter les autres cas des voisins, j'ai perdu quatre personnes dans ma famille. Nous n'avons pas de marché ici. Nous avions l'habitude de commencer à Nyamukibi. C'est très loin d'ici. Alors tous ceux qui veulent faire du commerce vont en pirogue. Malheureusement, nous sommes victimes de noyades répétées. En plus de cela, nous n'avons pas de port ici. Si nous en avions, nous voyagerions en toute sécurité en bateau. Nous lançons un appel aux autorités pour qu'elles nous viennent en aide.
Pour limiter le nombre de noyades, les habitants de cette région pourraient emprunter la route, mais celle-ci est impraticable, non goudronnée et pas entretenue, ce qui rend les transports dans la région difficile.
Quand il pleut, il y a de la boue sur cette route. Cela devient très pénible pour le taximan et même pour les passagers. Il y a des nids de poules partout. Quelqu'un qui n'a pas une bonne santé ne peut pas passer ici.
Selon cet acteur de la société civile, le gouvernement congolais doit agir rapidement pour répondre aux besoins réels de cette population, sinon les cas de noyade vont se multiplier.
L'État congolais doit tout faire pour prendre en charge les agents de services attitrés et ses équipements, puisque si vous arrivez au bord du lac, comme à Nyachibungu, les cas que nous sommes en train de parler, les agents n'avaient aucun moyen même d'intervenir. Et si ça ne se fait pas, donc nous sommes en train de voir que la population de Calais va risquer de finir ou de se perdre d'une manière générale, puisque la plus grande activité du territoire de Calais, c'est d'abord la navigation sur le lac Kivu.
La semaine dernière, le territoire de Calais a connu son énième naufrage qui a fait une trentaine de morts et une vingtaine de disparus. La majorité des morts étaient des marchands qui se rendaient dans les villages environnants pour vendre leurs marchandises. Les recherches se poursuivent encore pour retrouver d'autres corps. Zanem Neti Zaidi pour VOA Afrique, Kalehe, Sud Kivu.
Salut les amis, ici Roger Montou de VOA Afrique. Téléchargez et partagez l'application RM Show VOA. Vous allez pouvoir nous suivre en direct sans problème. Vous serez aussi en mesure de suivre des émissions manquées et nous appeler et participer en live en direct sur notre application RM Show VOA. Vous pouvez trouver l'application dans votre Google Play. Cherchez tout simplement RM Show VOA. Merci infiniment de rester connecté avec RM Show sur l'application Google Play RM Show VOA. Téléchargez et partagez l'application pour rester scotché à nous suivre chaque jour entre 20h à 21h temps universel. Rappelez-vous que RM Show, c'est chaque jour à 20h temps universel sur VOA Afrique. Et je vous dis comme d'hab, God bless, peace Africa.
La fin de cette édition. Merci de votre fidélité à VOA Afrique. Un grand merci à toute l'équipe de production qui a permis la réalisation de ce journal. Michel Joseph et Georges-Léonard Fadio. Au micro, Claire Morin-Gibourg. Ainsi va le monde aujourd'hui. Pour plus d'informations 24h sur 24, un seul site internet, voaafrique.com. Sans oublier nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram, bien sûr. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.
Oh Mario, Luka Kamwati Mokogala, Mario Moussalo de Moulinga, Mama Mokogoli, Basu Kayote, ah, Lelo Makambola.